Pour préparer cette communication, j'ai repris le titre qui était celui de cette séance, qui est donc consacré aux nouvelles pratiques de contrôle dans le travail. Et en guise d'introduction, je souhaitais rappeler que le terme de contrôle, le mot de contrôle, est précisément aujourd'hui largement absent des discours des responsables des ressources humaines, des ouvrages ou formations dispensés par des consultants en management, ou même des objectifs explicitement définis des responsables hiérarchiques. Depuis les années 1980 et la diffusion de modèles d'organisation inspirés du toyotisme, on ne parle plus, ou presque plus, dans le monde du travail, de contrôle, de surveillance, de commandement, d'autorité, de subordonné. On a parlé et on parle au contraire de participation, d'initiative, de contrat gagnant-gagnant, de convivialité, d'épanouissement au travail. Aujourd'hui, on parle de gouvernance. Alors, voilà, les lignes hiérarchiques ont été réduites du fait de ces modèles d'organisation. Les lignes hiérarchiques ont été réduites, les lieux d'organisation ont été décentralisés. La production est organisée en équipes semi-autonomes. Et aujourd'hui, les salariés sont pensés comme les acteurs de leur travail et de leur emploi. Le maître mot est donc l'autonomie. L'autonomie des salariés est appelée par les entreprises parce qu'elle correspond à un besoin pour elles, celui de faire descendre le niveau de décision au plus près des besoins du terrain, loin d'un système bureaucratisé, pour une plus grande adaptation et flexibilité. Dans les nouvelles organisations du travail, la prescription est en quelque sorte devenue coûteuse et peu efficace. Si bien que l'autonomie n'est plus à conquérir par les salariés face à une hiérarchie omniprésente ou à un bureau des méthodes, pour faire référence au taylorisme, mais l'autonomie leur est imposée, assignée par une direction qui leur dit en quelque sorte « débrouillez-vous ». Alors au-delà du constat de ce premier paradoxe managérial, de cette injonction à l'autonomie, « soyez autonome », il convient d'analyser comment les entreprises, en accordant davantage d'autonomie à leurs salariés, s'assurent de leur participation à la bonne marche de l'organisation, de leur implication, voire de leur dévouement. Puisqu'on ne parle peut-être plus ou moins de contrôle, ça ne signifie pas pour autant, bien évidemment, qu'il n'y a plus de contrôle. Alors comment les entreprises s'y prennent ? Elles le font tout d'abord en encadrant l'activité de règles, de consignes, de procédures, de modes d'emploi, d'indicateurs de performance, d'objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre, et à l'aide également de systèmes informatiques perfectionnés ou de progiciels qui enregistrent en temps réel l'activité réalisée. Je pense que ça, c'est des choses que présentera précisément Nadège Vézina derrière moi. Dans ce registre, on peut évoquer ici l'importance du contrôle qualité. Alors justement, rare expression du travail où subsiste le mot contrôle, mais un contrôle qui se fait au nom de la qualité, au nom du client. Et donc il y a un glissement opéré qui est important à saisir. C'est la figure du client qu'il faut satisfaire, qui est au cœur du discours managérial et qui conduit à une naturalisation des contraintes qui permet à la hiérarchie de rester discrète dans le contrôle de l'exécution du travail. Ce n'est plus en quelque sorte le responsable hiérarchique, le chef, le patron, qui impose les objectifs et les contraintes, mais c'est le marché, le client, qui constitue la norme objective et qui vide ainsi les relations sociales de toute conflictualité. En lien avec ces premiers procédés, et dans un contexte de précarisation des emplois, de déstructuration des collectifs de travail et des syndicats, les entreprises cherchent aussi à déplacer la contrainte de l'extériorité de dispositifs de surveillance vers l'intériorité des personnes. Elles cherchent, comme l'a évoqué donc Laurent, et qui est l'objet de ma communication principalement, elles cherchent à substituer l'autocontrôle au contrôle. Par de nombreux discours sur la nécessaire adaptation, sur l'esprit d'équipe, sur la mobilisation des énergies de chacun, etc., tout un discours très, très, très dominant dans toutes les entreprises, mais aussi par des dispositifs, le management vise ainsi une prise en charge individuelle des objectifs de l'organisation. Il s'agit là de déplacer le poids de l'organisation sur les salariés, de leur faire intérioriser les normes, règles, contraintes et autres critères de définition du bon travail, du bon comportement adopté. Alors c'est l'exemple effectivement des entretiens d'évaluation individuelle que Laurent a présenté, sur lequel Du coup, je ne reviendrai pas, sauf à dire peut-être que cet outil, on appelle ainsi à l'autocontrainte, hein, puisque le salarié est invité à définir en accord avec son responsable hiérarchique les objectifs, souvent objectifs quantitatifs, indicateurs quantitatifs, et donc objectivables de l'activité, et que cet outil, du coup, conduit à l'autocontrainte des salariés, à leur auto-évaluation et à leur autocontrôle, et permet ainsi de déléguer la surveillance, la surveillance du travail aux salariés eux-mêmes, qui d'ailleurs en viennent à considérer qu'une erreur de leur part aurait des conséquences graves pour la qualité des produits ou des services. D'où aussi la montée en puissance de la problématique des souffrances au travail. Autre exemple de dispositif qui conduit à un autocontrôle des salariés, exemple que je souhaite développer ici, issu de mon travail de recherche, celui de types de formations qui sont fortement développés dans les années 90, depuis les années 1990, dans les entreprises depuis les années 1990, c'est les formations dites de développement personnel. En m'appuyant sur mes observations, je montrerai comment ces formations contribuent à une intériorisation des normes de comportement en entreprise et au final à un autocontrôle des salariés. Alors, pour ça, je vais citer un petit peu l'action, où s'est déroulée mon observation. L'action, elle se situe au début des années 2000 dans une grande entreprise informatique que j'ai renommée Siris, et qui, depuis le milieu des années 80, a connu plusieurs vagues de restructuration qui a fait chuter son effectif de plus de moitié, puisque l'effectif était de 45 000, pardon, en 1988, et elle est passée à 17 000 en 2000. Alors voilà, bon, ça va m'obliger un peu à présenter quelques spécificités du terrain pour présenter mes résultats. L'entreprise est spécialisée dans la conception de gros systèmes informatiques, des serveurs, et c'est justement le service de conception de systèmes et logiciels informatiques, le service de R&D, de recherche et développement, que j'ai étudié pendant 3 ans. Le personnel de ce service de recherche et développement est très largement masculin, à 74% d'hommes, très qualifiés, 86% sont cadres et ingénieurs, travaillent en relation directe avec la technique et est une population vieillissante, puisque 63% d'entre eux ont plus de 44 ans et 70% a une ancienneté supérieure à 15 ans. Bon, il faut retenir donc population masculine, très qualifiée, plutôt vieillissante, et qui travaille donc directement, en relation directe avec la technique. Vous allez voir pourquoi ça a une importance. Lorsque j'arrive dans l'entreprise, donc pour une enquête qui durera 3 ans, un des objectifs de la direction des ressources humaines est de faire en sorte qu'une partie de ses salariés se réoriente professionnellement, c'est-à-dire quitte leur activité de R&D pour une activité de service à la clientèle. C'est une démarche qu'on a vue aussi dans des grands groupes techniques, en premier lieu desquels France Télécom, qui a ainsi transformé une grande partie de ses techniciens en commerciaux. Alors ce tournant commercial est accompagné par tout un discours sur les comportements attendus de la part des salariés, messages appelant à être mobile, responsable et autonome, à gérer son parcours professionnel et son employabilité, à être disponible pour répondre aux besoins du client. Alors c'est le modèle effectivement qu'on a pu évoquer depuis hier à plusieurs reprises, ce modèle de l'entrepreneur, et vous allez voir qu'effectivement c'est bien celui-là. Le directeur des ressources humaines de l'entreprise Siris déclare à l'époque, je le cite, vouloir passer de la gestion des individus par l'entreprise à la gestion des individus par eux-mêmes. Il entend transformer les comportements des salariés jugés résistants au changement et demande aux consultants en formation de l'entreprise de concevoir un dispositif qui vise, je le cite encore, qui vise à développer la mobilité et l'autonomie des salariés, à les faire passer d'une culture maternante à une culture entrepreneuriale. Cette demande est traduite dans une opération qui s'appelle, le mot est lâché, ce qui s'appelle « entreprise de soi ». Expression du consultant Bob Aubrey, qui, d'origine californienne, donc je renvoie à ce qu'a pu dire Loïc Vacan notamment, qui propose que chacun désormais considère sa personne comme une entreprise, expression qui a connu, bon, vous le voyez, un certain succès depuis. L'opération prend la forme de séminaires de développement personnel, chacun d'une durée moyenne de 2 jours, proposant aux salariés des exercices de réflexivité psychologique, inspirés principalement de la PNL, l'analyse transactionnelle, ou encore de l'activation et développement vocationnel de la personne. Les volontaires pour ce dispositif, hein, c'est un dispositif qui fonctionne sur le volontariat, choisissent ainsi 3 séminaires parmi une offre de 10 qu'ils peuvent compléter par des entretiens avec des conseillers en stratégie de vie. Alors, bon voilà, donc vous voyez... Je sais, il y a toujours des expressions comme ça qui marchent bien. Donc, bon, vous voyez que ça renvoie à différentes interventions qui ont pu avoir lieu, notamment celle de Gérard Nérand, hein, sur ce mouvement d'extension de la psychologie dans des champs divers. Processus, donc c'est bien de processus de psychologisation des rapports sociaux dont il est question ici. Hein. C'est ce dispositif, ces concepteurs et animateurs et participants que j'ai particulièrement observé pendant 3 ans. Et donc, je voudrais revenir un petit peu sur 2 grands enseignements de ces observations à propos du thème du contrôle et de l'autonomie. Un premier renseignement, c'est que c'est justement lorsque les formes d'autonomie conquises par les salariés par le passé, c'est justement lorsque ces formes d'autonomie conquises sont menacées que le discours et les pratiques managériales sur l'autonomie sont mis en place. J'ai particulièrement compris cela en analysant les trajectoires et les positions professionnelles des participants à entreprise de soi, puisque leur inscription correspondait en effet toujours à des situations de forte incertitude professionnelle produites par les transformations survenues au cours des années 1990 dans l'entreprise Siris. Incertitude tout d'abord quant à la pérennité de l'emploi. Certains salariés s'inscrivent, se tournent vers entreprise de soi pour réaliser une mobilité professionnelle à la suite d'une suppression de poste, d'un déclassement, d'un refus de promotion ou d'un changement imposé. Ces situations sont le produit de politiques d'emploi et de revirements industriels de l'entreprise qui ont à la fois réduit de plus de moitié son effectif, fait disparaître les populations les moins qualifiées et conduit à un vieillissement de la main-d'œuvre. Incertitude ensuite liée aux conditions de travail. Des salariés viennent à l'entreprise de soi pour y réparer des souffrances psychiques provoquées par des situations de surmenage, de conflits interpersonnels, de harcèlement ou de pressions diverses. Toutes ces situations découlent des formes d'organisation du travail et des modes de mobilisation de la main-d'œuvre qui ont conduit à la fois à une intensification du travail, à une forte responsabilisation individuelle, obligeant les travailleurs à résoudre par eux-mêmes divers dysfonctionnements, à concilier des missions contradictoires ou à atteindre des objectifs difficiles à tenir. Incertitude enfin quant au sens même du travail. Des informaticiens de Siris, ingénieurs et techniciens, chargés de conception informatique, s'inscrivent à entreprise de soi parce qu'ils ont le sentiment d'avoir progressivement perdu la maîtrise de leur savoir professionnel et le sens de leur activité de travail. Sous les effets conjugués, bon, qui seraient sans doute, enfin voilà, que je ne peux pas présenter ici en détail, mais sous les effets conjugués de changements technologiques, de décisions stratégiques et de réorganisation de l'activité informatique, ils se sentent davantage contraints par des exigences de productivité et obligés de sacrifier leurs propres critères de légitimité professionnelle, ces critères qui sont notamment caractérisés par une quête constante d'amélioration des performances de la machine, qui attache davantage d'importance à la beauté technique qu'à ses usages, critères qui avaient pu être constitués de manière relativement autonome grâce à une organisation du travail basée sur des collectifs de travail stables, soutenu par d'importants moyens financiers et aussi par un certain pouvoir technique dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Désormais inscrits dans des temporalités courtes, privés de la connaissance fine des composants qu'ils intègrent, beaucoup de ces informaticiens estiment ne plus pouvoir descendre en profondeur, pour reprendre une expression qu'ils ont pu utiliser, ne plus pouvoir descendre en profondeur dans la technologie et faire correctement leur travail. Ils ont le sentiment d'avoir perdu la partie créative, la partie la plus noble du métier, ainsi que la possibilité de se projeter dans le temps. Ces diverses incertitudes s'explique par la déstructuration des supports sociaux, organisationnels et technologiques qui leur avaient permis justement de construire une autonomie professionnelle. Ces supports, c'était principalement des politiques structurelles d'emploi et de formation, des négociations salariales, des collectifs stables de travail, je l'ai déjà évoqué, qui leur permettaient de négocier leur emploi et leur carrière, d'organiser leur activité de travail, de tenir à distance des injonctions hiérarchiques et aussi de définir entre pairs les savoirs nécessaires et légitimes de leur activité. Donc ces informaticiens se sentent aujourd'hui, se perçoivent aujourd'hui largement soumis aux décisions de l'entreprise et aux réorganisations qui leur sont imposées. Et c'est précisément dans ce contexte qu'un discours sur l'autonomie réapparaît. La direction des ressources humaines de Syris le fabrique, le met en scène. Elle présente toutes ces régulations passées que je viens d'évoquer. Elle les présente comme des relations de subordination, des relations d'assujettissement. Et elle appelle chaque salarié à justement se déprendre d'un attachement aux garanties que l'entreprise pouvait jusqu'alors offrir, mais qu'elle considère désormais comme autant de freins à l'émancipation individuelle. Ce qui me mène au deuxième enseignement de cette analyse, quel type d'autonomie le dispositif entreprise de soi entend promouvoir en lieu et place de cette autonomie conquise en situation de travail, fruit de négociations collectives et professionnelles. Pour le dire rapidement, il s'agit d'une autonomie imposée, j'ai déjà évoqué ce paradoxe, autonomie individuelle, psychologique et normative, et finalement une autonomie profondément illusoire. Ce qui me permet d'affirmer cela, c'est l'observation participante des séminaires de développement personnel ou des entretiens avec des conseillers en stratégie de vie. J'ai choisi de vous faire part d'un certain nombre de pratiques de formation telles que j'ai pu les observer dans ces séminaires, en les regroupant sous deux grands ensembles ayant deux finalités distinctes et complémentaires et que j'espère avoir le temps de présenter. Le premier ensemble correspond à une mise en scène du nouvel esprit de l'entreprise, pour paraphraser l'ouvrage d'Ève Capello et de Luc Boltanski, Le nouvel esprit du capitalisme. Mise en scène du nouvel esprit de l'entreprise qui vise à inculquer ou à rappeler les règles de comportement auxquelles les salariés sont censés se conformer. Alors, mise en scène, alors même que le contenu du dispositif, je vous le rappelle, celui de séminaire de développement personnel, où les salariés sont amenés à faire un travail d'introspection, à relire leur parcours, à lui donner du sens, à réfléchir à leurs valeurs, à leurs croyances. Voilà, ce contenu du dispositif semble a priori très éloigné de ce nouvel esprit de l'entreprise. A priori, puisque il y a bien rappel. Un rappel qui fonctionne tout d'abord dans l'imposition d'un vocabulaire pour parler de soi et de sa position professionnelle. En s'appuyant sur le langage psychologique, le dispositif diffuse une norme d'internalité qui désigne l'individu et sa psyché, et non pas l'organisation ou les conditions de travail, donc qui désigne l'individu et sa psyché comme le lieu de résolution des difficultés rencontrées. Il y a là un principe de responsabilité individuelle que l'on trouve ensuite dans les récits que les participants font de leurs difficultés professionnelles. Ils peuvent parler ainsi de manque, de blocage personnel qui réclamerait un travail sur soi pour être résolu. Donc autant de termes que je reprends et qui étaient employés par les participants, ensuite, après leur participation. Les compétences professionnelles sont ainsi traduites en termes de personnalité ou de mode de fonctionnement ou de façon d'agir. Les perspectives de carrière sont pensées en termes de désir, en termes de motivation profonde. Et enfin, la mobilité réclame avant tout une préparation psychologique. L'injonction à devenir acteur de sa vie professionnelle est par là intériorisée. Elle donne lieu à l'acquisition d'une façon de parler de soi, de son travail et des autres. Outre ce langage psychologique, les thèmes de réflexion proposés ou la récurrence de certaines expressions, motivation, projet, valeur, réussite, désigne les objets et les termes légitimes pour que chacun pense et agisse sur sa position professionnelle. Par exemple, à plusieurs reprises, les stagiaires sont invités à réfléchir à leur appartenance à des réseaux sociaux et à imaginer les moyens de les mobiliser en cas de besoin. Les nouvelles normes de gestion de carrière sont également incarnées par les consultants eux-mêmes. La plupart des consultants, en se présentant, soulignent combien la trajectoire qui les a menés à monter leur propre entreprise de conseil est le fruit de reconversions enrichissantes, guidées par un souci de réalisation de soi. Ils se présentent ainsi comme des incarnations de la rupture avec le salariat et de la conversion à l'esprit d'entrepreneuriat. Le nouvel esprit de l'entreprise est ainsi diffusé, incarné, mais il est aussi mis en scène. De diverses manières, les participants sont invités à ajuster leur comportement aux bonnes règles de sociabilité professionnelle, c'est-à-dire à adopter une attitude relationnelle conciliante. Par exemple, ça peut se faire par exemple à partir de tests de personnalité au cours desquels chaque participant découvre son profil type et il apprend ensuite à reconnaître celui de son interlocuteur et à faire dialoguer au mieux ces deux profils grâce à des schémas de communication préétablis. Dans un autre séminaire, aidé par des techniques diverses d'écoute et de reformulation, les participants expérimentent par des jeux de rôle des modes de relation dans lesquels ils doivent à la fois, je cite, à la fois rester eux-mêmes et s'adapter à l'autre. Et puis, il y a aussi un séminaire de relooking, durant lesquels les stagiaires corrigent leur tenue vestimentaire, leur coiffure, leur maquillage, et apprennent ainsi à maîtriser l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. Dans tous ces exercices, il s'agit de tester sous le regard des autres participants et de l'animateur de nouvelles mises en scène de soi et leur conformité aux exigences de l'entreprise. La réflexivité que propose l'entreprise de soi est ainsi tournée vers l'adaptation aux nouvelles normes d'employabilité, réduites ici à leur dimension comportementale et relationnelle. Tout au long de la formation, les participants se voient ainsi expliquer les bonnes ou les mauvaises attitudes. Et certes, s'ils peuvent maintenir ces règles à distance ou en jouer, ils sont néanmoins ainsi conduits à une normalisation des relations professionnelles et à un renforcement de l'autocontrôle. Chacun est tenu, quelle que soit sa situation, de présenter une image de soi dynamique, agréable, et d'entretenir des relations pacifiées avec ses partenaires de travail. Cette intention d'autocontrôle et de pacification des relations professionnelles prend d'autant plus de sens que face à des salariés déçus, mécontents de leur sort, voire en situation de fragilité psychique, il faut faire en sorte de contrôler et de détourner les possibles contestations. Alors, du coup, je ne vais pas avoir le temps de, et je m'en excuse, de développer ce point-là, c'est-à-dire ce second ensemble de pratiques que je peux présenter rapidement, c'est-à-dire... Romuald Baudin proposait tout à l'heure l'expression, reprenait l'expression d'Erwin Goffman en disant « il s'agit de calmer le jobard ». Ben voilà, là, dans l'entreprise de soi, il s'agit de calmer le jobard de ces insatisfactions professionnelles, de salariés mécontents, vivant un certain nombre de difficultés. Et tout au long des séminaires, les animateurs vont s'efforcer d'apprendre aux salariés à résoudre les situations à leur échelle individuelle, à délégitimer toute forme d'action collective, toute forme de résolution de conflits de manière collective. Alors, ne parlons pas encore moins des formes d'action syndicale qui sont complètement, encore plus, qui sont complètement niés. Et donc, il s'agit, à travers différentes techniques psychologiques, de faire travailler les salariés sur l'acceptation du changement, qu'il faut apprendre à perdre, qu'il faut perdre pour gagner, et donc à accepter leur situation, accepter de s'adapter aux transformations de six risques, quelles qu'en soient les incertitudes, et puis aussi à indiquer aux salariés les modes légitimes de contestation ou les modes légitimes de résistance aux pressions. J'évoquerai simplement l'effet de responsabilisation que cela produit, notamment en citant peut-être, ça sera la seule illustration de terrain que je m'autoriserai à faire, celle d'une personne qui souffre de harcèlement moral. Suite à des objectifs quantitatifs, il faudrait que je la retrouve déjà, quantitatifs assez difficiles à atteindre, et une responsable hiérarchique qui est constamment derrière son dos. Et donc, elle explique que, dans l'entreprise de soi, elle a trouvé des moyens pour faire face à sa situation de harcèlement moral. Elle parle d'un séminaire qui s'appelle « Moi et mon stress ». Ou c'est plus exactement, ça s'appelle « Moi et la gestion de mon stress ». Moi et mon stress, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça très utile. C'était avec biofeedback et tout ça, comment faire de la relaxation, même au travail. Alors j'ai essayé de trouver les moyens de me calmer, de me relaxer, même s'il y avait le dragon à côté. Alors le dragon, c'est sa responsable hiérarchique. Voilà. Et alors ce que ça a eu comme effet, c'est que j'ai décidé d'aller suivre des cours de sophrologie. Et c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose auquel je crois très fort. Pour moi, c'est réduire le stress, le sentiment de stress et de mal-être pour retrouver un bien-être. C'est une question de mental, c'est pas vraiment les autres qui sont la cause de tous mes problèmes. C'est ce que moi je perçois, ce qu'il se passe autour de moi. Et d'être capable de travailler aussi sur le physique avec le mental, ou bon, si je me sens agressée, d'être capable de me calmer, de ne pas avoir besoin de fuir tout de suite et d'exploser. Bon, il y a du travail, c'est pas encore gagné, mais j'y travaille. Donc on voit les effets de responsabilisation. Et ben maintenant, j'ai perdu. Voilà. Les effets de responsabilisation individuelle et de délégitimation de l'action collective, de dépolitisation, de renoncement à vouloir transformer les rapports de travail. Et je finirai quand même, je conclurai. Pardonnez-moi de prendre plus de temps. Simplement, parce que peut-être que ça me permettra de tenter une petite pirouette sur cette histoire de main gauche, main droite qu'on a beaucoup évoquée. Peut-être en forçant le trait, on verra. Une hypothèse de travail, peut-être. À travers donc ces deux grands ensembles de pratiques, il me semble qu'on perçoit en tout cas mieux comment les entreprises parviennent à substituer l'autocontrôle au contrôle. Cyrus le fait particulièrement en jouant de l'ambivalence du dispositif. Ambivalence parce que ces pratiques d'entreprise de soi permettent d'accéder à une connaissance de soi, mais elles le font sur un mode particulièrement normé et instrumentalisé en vue d'un ajustement aux exigences de l'entreprise. Ambivalence parce que ces pratiques fournissent des ressources pour connaître les normes de gestion de carrière et pour éventuellement en jouer. Et c'est vrai que j'ai pas développé ce point ici. Alors, elles fournissent les ressources, mais en même temps, elles détournent les salariés de toute volonté de changer ces normes, d'agir collectivement sur elles, et finalement fonctionnent comme un rappel à l'ordre social. Et puis ambivalence enfin, parce que si elles peuvent apaiser les souffrances psychiques, elles consolident en même temps des processus de psychologisation des rapports sociaux, elles délégitiment l'action culturelle, elles euphémisent les rapports de pouvoir et la responsabilité des organisations, pour au final renforcer davantage la responsabilité individuelle. Et c'est précisément par cette ambivalence, hein, ou ces paradoxes ou faux semblants, parce que les salariés peuvent trouver des ressources dans le dispositif, qu'ils adhèrent à l'esprit de la formation et intériorisent d'autant mieux le principe de responsabilité individuelle, l'exigence de coopération conciliante, l'impératif d'implication personnelle. Hein, ils le font d'autant plus que le contexte d'emploi, de pénurie d'emploi, de concurrence entre travailleurs ou de fragilité syndicale, ne le leur guère d'autre issue. Bref, si je tente un peu de forcer l'analyse avec cette notion de main droite et de main gauche, il me semble que la main droite ici opère d'autant mieux qu'elle se fait en quelque sorte passer pour une main gauche. Et puis je finirai là-dessus.